Là, c'est un peu le début de la catastrophe qu'on est en train de vivre en ce moment, quoi. C'est l'époque où les prolétaires commençaient à vivre avec la peur au ventre, la peur de la fermeture des usines, la peur de perdre leur boulot, la peur que... Enfin, si vous voulez, c'est la prise de conscience d'un fait nouveau. C'est que jusque-là, lorsqu'une usine fermait, c'est parce qu'elle marchait mal, quoi. Ça arrivait ou qu'elle avait fait de mauvais calculs ou qu'elle était sur un mauvais créneau. Voilà, c'est les canards boiteux qui faisaient faillite, disons. Mais là, les ouvriers étaient en train de se rendre compte que ça pouvait arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui, dans n'importe quelle entreprise. Et c'est ça qui a explosé. Là, on est en 2000, oui, on est en 2000 à peu près. Ben après, ça explose avec les délocalisations, etc. Mais ce qui est déjà arrivé là, c'est toute une série de stratégies patronales pour neutraliser l'action ouvrière, quoi, la résistance ouvrière. Alors, la casse des grandes unités, par exemple, les grandes unités comme celle de la banlieue de Lyon, là, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus, c'est l'ex-Berliet, hein, mais ça s'appelle Renault Trucks, ça a changé de nom plusieurs fois, de propriétaire aussi. Mais il y a de moins en moins de grandes unités comme ça, c'est pas non plus par hasard. Des unités du style Renault-Billancourt, par exemple. Et quand elles existent encore, elles ne fonctionnent plus du tout de la même façon. Par exemple, les horaires sont décalés. Les gens sortent plus, on voit plus de masse d'ouvriers qui sortent ensemble ou qui rentrent ensemble. Ils sortent par petits paquets. Ils ont des horaires de pause très réduits. Il est devenu très difficile de se parler, de distribuer des tracts, par exemple. De faire jouer la solidarité, ça joue quand même, mais c'est beaucoup plus difficile. Et puis bon, il y a beaucoup plus de répression antisyndicale dans les usines. Et puis il y a toute une série de méthodes de management, comme on dit, modernes, qui se sont mises en place. Là, on le voit dans certaines entreprises où on fait croire aux ouvriers qu'on va leur donner la possibilité de prendre en main leur travail, d'avoir plus d'initiatives, etc. Mais comme le dit un syndicaliste, en fait, c'est un calcul patronal très intelligent. On va supprimer toutes les postes de hiérarchie intermédiaire, les petits chefs, les contremaîtres, etc. Ce qui fait que ces salariés à qui on a donné quelques miettes, mais sans augmentation de salaire, on leur fait faire le travail des contremaîtres. Et le résultat, c'est qu'ils savent que toute leur vie seront sur la chaîne, quoi. Voilà, il n'y a plus de perspective d'ascension, quoi, de déboucher sur autre chose. C'est aussi l'époque où se met en place le système de la sous-traitance. Et ça, c'est absolument une idée géniale. Ça permet de mettre à plat toutes les comment dire les conquêtes sociales. Hein. On fait travailler au lieu on diminue le nombre des gens en CDI attachés à la maison mère et on fait travailler de plus en plus des gens en intérim ou par l'intermédiaire de sous-traitants. Et qui n'ont aucun droit. Voilà, c'est comme ça que, par exemple, à Saint-Nazaire, se côtoient des salariés anciennes manières qui ont certains droits, qui ont été conquis par des dizaines d'années de luttes ouvrières, et puis d'autres qui n'ont aucun droit. Voilà, qui dépendent d'un sous-traitant, de sous-traitant, de sous-traitant. Et par exemple, à Saint-Nazaire, là, peu de temps après notre passage, sont arrivés, je ne sais plus combien, 300 Indiens, je crois, qui ont débarqué, amenés par un patron indien, sous-traitant au troisième degré d'entreprise française. Et quand ils sont arrivés, on leur a pris leur passeport, comme le font les patrons en Arabie Saoudite, hein, les sponsors d'Arabie Saoudite. Et puis on les a logés dans des villages de vacances, c'était l'hiver. dans des conditions que vous imaginez. On leur a imposé des repas tout préparés sous cellophane, qui correspondaient en rien à ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Et à la fin du premier mois, ils ont regardé leur feuille de salaire, c'était 300 euros, quelque chose comme ça. Voilà, tout avait... bon. Et là, grâce à ce petit bonhomme-là, qui organise les salariés de sous-traitants, justement. Il a réussi à convaincre les gros syndicats de les défendre. Et ils se sont mis en grève. Ils ont été soutenus par les syndicats, par la CFDT et la CGT en particulier. Et ils ont réussi à imposer aux patrons d'abord de leur rendre leur passeport, ce qui est quand même un comble hein, en France. D'autre part, de leur payer leur salaire, le même salaire que s'ils étaient des salariés français, c'est-à-dire le SMIC, tout simplement. Et puis, ils ont dit, nous, on sait très bien faire notre cuisine, on n'a pas besoin de votre truc là, dégueulasse sous cellophane. Et puis, on veut être logé dans de bonnes conditions. Et ils ont gagné. Mais c'est très très rare, quoi. C'est très très rare là. C'est parce qu'ils étaient nombreux, déterminés, parce que parmi eux il y avait des ouvriers, parce que c'est des ouvriers qualifiés en plus hein, qu'on va chercher dans ces pays-là. Il y a des chantiers navals aussi en Inde et avec des habitudes. Enfin, certains avaient des traditions syndicales, donc ils ont pu se défendre. Mais très souvent ils sont sans défense, quoi. Quand ils arrivent à 10 Roumains, 25 Polonais, etc., ils n'ont aucun moyen de se défendre, quoi. Et il y a toujours cette tentation, ce désir des patrons d'imposer à ces travailleurs venus d'ailleurs les conditions de leur pays en France. La fameuse directive Bolkestein, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai entendu ce matin que il était question de la remettre en usage, je ne sais plus pour quelle sorte de salariés, je crois que c'est pour des ouvriers agricoles, et c'est le gouvernement qui propose que, hein, vous avez entendu ça, j'ai entendu ça ce matin, on fasse venir des Roumains par exemple, mais... il y a des employeurs qui ont refusé. Oui. J'ai entendu une interview d'employeurs qui ont refusé. Mais c'est le gouvernement qui propose ça, quoi. C'est hallucinant. Il propose qu'ils soient payés 300 euros par mois, quoi. Voilà. Alors ça, voilà, c'était le début de tout ça. Avec, puis bon, la grande découverte quand même pour nous, c'est l'extraordinaire diversité, quoi, des situations dans l'industrie française actuelle. Le monde ouvrier n'apparaît plus comme une classe homogène, quoi. Tout a été fait pour la diviser, pour individualiser les gens, chacun pour soi, etc., quoi, hein. Tout est fait pour les neutraliser en tant que classe, quoi. Et puis bon, l'arme absolue, c'est la délocalisation. Et là, ça s'est multiplié. On a fait d'autres films. On avait fait un juste avant, là, qui s'appelait 300 jours de colère, sur une liquidation d'entreprise. Et puis, plus récemment, on a fait un autre qui s'appelle Silence dans la vallée, sur une petite ville des Ardennes, où il y avait environ 40 usines qui fonctionnait à plein rendement il y a 30 ans, 25 ans. Et la dernière a explosé au moment où on tournait il y a un an et demi, deux ans, quoi. C'est-à-dire qu'une ville industrielle avec des salariés d'une très pointue, avec une tradition qui datait de Louis XIV, etc., était liquidée complètement, quoi. Il n'y a plus rien, pratiquement plus rien. Voilà.
Comparé à il y a 7 ans, 8 ans, j'imagine que les ouvriers qui travaillent dans les industries, le nombre a baissé. Aujourd'hui, c'est compensé peut-être par encore plus de monde à faire des ménages, à faire à des boulots, des boulots de merde. Comment ?
Du travail précaire. Oui, ça s'est précarisé. Voilà. Il n'y a pas moins de, il y a pas moins de prolétaires, mais ils sont de plus en plus précarisés. Mais bon, globalement, on est quand même toujours autour de 6 millions d'ouvriers. Ça a baissé un peu par rapport à ce que c'était il y a 10 ans, 10-15 ans. Mais en même temps, ce qu'on appelle les employés, leur nombre a augmenté, plus de 7 millions. Et très souvent, ce sont des gens qui sont dans des situations encore plus difficiles que les ouvriers, quoi. Ce sont de plus en plus des précaires sans aucun droit, sans syndicat, etc., quoi.
Le milieu de la vente, du commerce, je pense à ça particulièrement.
Ouais.
La restauration. J'entendais une émission de radio qui disait l'autre jour, il y avait un expert, soi-disant, en économie, qui disait que toutes les couches intermédiaires ont tendance à disparaître au profit de deux extrêmes, en fait.
Mmh.
Donc il n'y a plus de contremaître, il y a le très haut et le très bas, et il faisait le parallèle avec les prix dans la consommation aussi, dans les supermarchés, quoi. Il y a le hard discount, mmh, de plus en plus, en fait, généralise, et puis toujours les produits très 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 chers qu'on s'offre de temps en temps quand on n'a pas beaucoup de moyens, ou que d'autres s'offrent
tous les jours.
Coup, ils sont un peu bipolaires, un truc qui bipolarise dans plein de secteurs, en fait.
Oui, c'est un drôle de progrès, quoi, hein. Les injustices, les inégalités se sont accentuées depuis les années 80, en gros, de manière très violente, quoi. Très, très violente. Les écarts de salaire, il y a 30 ou 40 ans, c'était quoi? C'était de 1 à 10. Maintenant, c'est de 1 à 1000. C'est effrayant. Et c'est pas seulement français, hein, c'est un phénomène mondial, quoi, en même temps. Et c'est sans doute très explosif. Ça m'étonnerait que ça puisse durer éternellement.
Il y a quelque chose qui m'a un peu amusée, on peut dire, en fait, il y a plutôt de quoi être triste. C'est qu'à un moment, lorsque on a un patron avec le délégué CGT, monsieur Chidry, je crois qu'il s'appelle.
Chigri.
Oui, voilà, ils sont tous les deux à dire qu'ils se respectent, etc. Et je crois que c'est monsieur Rose qui dit « ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il n'a pas sombré dans l'idéologie.
» Oui, c'est sa vision des choses. Oui, c'est sa vision des choses.
Ouais. C'est étrange parce que... parce qu'on voit bien dans ce film, à ce moment-là, le basculement du vocabulaire, des mots. Pour certains, ils savent que de toute façon, il n'y a pas de débouché, il y a une résignation. Et pour d'autres, il y a un semblant d'ascension sociale, c'est-à-dire le délégué syndical qui vont, ils rentrent dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils participent à un moment donné à faire quand même en sorte que les autres ne rentrent pas, la sous-traitance ne rentre pas. Mais quand même, lui est arrivé. Donc, on voit qu'il y a l'espèce de croyance qu'en travaillant plus, vous gagnez plus, alors qu'en même temps, c'est démonté au fur et à mesure dans votre film, quand le patron il fait 60 000 francs d'économie sur un moteur et que lui, il sort avec une cafetière. C'est vraiment super colonialiste, quoi, comme truc, quoi. Il y a plein de... On sent un basculement, on n'y croit plus, mais on essaie d'y croire. Et il y a aussi
le désenchantement
qui est déjà là, quoi.
Non, mais cette entreprise, elle questionne beaucoup les gens, là, cette fameuse entreprise du Nord, là. Bon, comme je disais, il y a une très grande diversité. Et cette entreprise, elle a quand même une particularité, c'est qu'il y a un syndicat qui rassemble plus de 80% des salariés. Ce qui fait qu'ils ont un poids énorme, quoi. Et que le patron, que ça lui fasse plaisir ou pas, il est bien obligé d'en tenir compte, monsieur Rose, qui est en même temps un type intelligent. C'est pas un crétin. Parce qu'il y a beaucoup de crétins maintenant dans les entreprises. Hein, dans toutes ces entreprises où les gens se suicident, etc. Il faut vraiment être con parce que c'est, une entreprise ne peut pas fonctionner comme ça. Ils se tirent des balles dans le pied, en plus. Même de leur point de vue de capitalisme, ils sont complètement idiots, quoi. Alors que ce type-là est un type pas idiot. Et en plus, c'est un groupe suédois. Donc c'est comment dire, une autre tradition, une autre culture protestante, où quand même il y a un certain respect des salariés, contrairement à ceux qui de plus en plus sont les patrons des entreprises et qui sont des financiers pur sucre et qui méprisent complètement leurs salariés et qui n'en ont vraiment rien à foutre, quoi. Et là, c'est autre chose. Et ce n'est pas pour autant que cette entreprise ne marche pas, parce que l'idéologie habituelle, c'est de dire on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça que ça marche, ça ne peut pas marcher autrement. Si, ça peut marcher, ça marche mieux autrement. Alors, très vite, on retombe sur les contradictions du capitalisme. Même eux, ils ont eu un plan social quelques années après. Parce que voilà, c'est la logique capitaliste qui veut que ce qui fait marcher l'économie, c'est la course au profit maximum, toujours plus. Bon, ben ça aboutit à chaque fois aux mêmes contradictions. Mais elles sont atténuées dans des situations comme ça, où les syndicats sont très forts et où il y a quand même un dialogue social. Un vrai dialogue social, mais c'est extrêmement rare, quoi. Une entreprise comme ça, moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça, quoi. Il y a longtemps que je n'avais pas vu ça.
Mais d'un autre côté, enfin, si vous permettez une petite critique, mais bon...
Je vous en prie.
Donc, où sont confrontés le patron et puis le délégué, je trouve que ça aurait été pas mal. Bon, alors, il y a le délégué qui se satisfait finalement du plan social. Il dit qu'il y a eu des formations, etc. Toutes choses, d'ailleurs, qu'il n'y aurait peut-être plus maintenant ou qu'il y a de moins en moins. Enfin, que c'est difficilement négociable dans les entreprises, justement, les plans de formation, puisque la formation, bien sûr, c'est un coût. Et attendez, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, je trouve dommage que vous n'ayez pas aussi interrogé justement des ouvriers pour savoir eux comment ils avaient vécu ces plans de formation, ces pré-retraites. Est-ce que finalement ils en étaient aussi satisfaits que ce qu'en disait le délégué, que moi j'ai trouvé pas très à l'aise quand même quand il a dit cela, voilà, comme ça.
Non, je crois que là, on est vraiment dans une situation tout à fait particulière, parce que si on compare aux malheureux là, qui se trouvent dans la même situation aujourd'hui et qui sont obligés de se battre pour partir avec 4 sous, quoi, c'est quand même incroyablement différent. Hein, ils obtiennent quand même des indemnités très importantes. Si ils trouvent du boulot à un salaire inférieur, l'entreprise compense la différence de salaire pendant je ne sais pas combien d'années, plusieurs années, 2 ans, je crois. Il y a des formations longue durée. Tout le monde court après les formations longue durée, hein, sans perdre son salaire. Ils avaient réussi à obtenir, mais parce qu'ils sont très forts, parce qu'ils ont toute l'entreprise derrière eux. Ils ont obtenu des conditions maximum, quoi. Ça n'empêche pas que peut-être l'usine va fermer dans 4 ou 5 ans, j'en sais rien. Ils ne sont pas à l'abri, hein, de la logique financière qui, de plus en plus, domine le monde industriel. Mais disons qu'ils ont pu atténuer au maximum les chocs, quoi. Et puis, en plus, il y a quand même un truc... on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, ils sont dans une entreprise où rien n'est imposé. S'il y a un changement d'horaire, il faut être volontaire. C'est jamais comme ça maintenant, c'est plus jamais comme ça. Alors bon, tant mieux pour eux, quoi. Hein. Si, bon, ce que je l'ai voulu montrer, c'est que c'est possible aussi de gérer les entreprises autrement. Voilà, c'est tout. Mais ça c'est provisoire, certainement, que ça n'est qu'un sursis, sans doute. Hein, j'en sais rien. Enfin, en attendant, eux, ce sont des salariés qui, en gros, sont assez contents de leur sort, quoi. Ce qui est devenu de plus en plus rare.
Alors, est-ce parce qu'il y a un syndicat qui est fort ?
Ben, je crois que c'est la seule explication. Hein. Un type de patronat quand même un peu différent, parce que tous les patrons ne se ressemblent pas. Hein. Il y a des abrutis, il y a des gens qui appliquent la logique financière à la lettre sans aucun état d'âme, et puis il y en a d'autres qui sont des gens normaux, si on veut, quoi. Mais à mon avis, c'est de plus en plus difficile pour eux, parce que la logique qui domine en ce moment, même si c'est des gens ouverts, humains, etc., elle est plus forte qu'eux, quoi. Elle conduit à traiter les gens comme des, je sais pas comment dire, quoi, comme des esclaves, plus ou moins, quoi. Enfin, surtout des gens qu'on prend et qu'on jette. Suédois. Enfin, pardon.
C'est particulier à cette entreprise-là ou dans les autres entreprises du groupe?
J'ai pas fait le tour du groupe, mais enfin, il y a quand même, d'après ce que me disaient les syndicalistes, là, il y a une ambiance un peu différente, quoi, dans ce groupe. Et là, un certain paternalisme, disons, voilà. Mais un certain respect des salariés. On discute, on n'impose pas, on essaye de convaincre les gens, etc. La DRH, comment elle fonctionne? Tous les DRH ne fonctionnent pas comme ça, c'est une exception, quoi.
Tu peux dire quoi, DRH?
Directeur des ressources humaines. Ce qui est déjà un terme terrible, quoi.
Les lignes, d'ailleurs, vous avez employé chaîne assez spontanément, mais ce qu'on appelle les lignes, ça n'est rien d'autre que la chaîne. Bon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le vocabulaire qui...
c'est ce que je dis au début du film, c'est que on ne dit plus chaîne, on dit ligne, on ne dit plus ouvrier, on dit opérateur, on ne dit plus patron, on dit manager ou entrepreneur ou je ne sais pas quoi. On n'appelle même plus les choses par leur nom, quoi. C'est Camus qui disait mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Et c'est un peu ça, quoi.
Mais en dehors de tous ces changements qui est en fait stratégique de changer les mots, etc., etc., qui participent à faire disparaître les mots par le changement ou ne pas les utiliser. Ça s'use, on s'en sert pas, ça s'use, ça meurt. C'est aussi tout le conditionnement par rapport, même actuellement, toutes les luttes qu'il peut y avoir, comment elles sont dévalorisées. On ne parle jamais des choses qui ont eu gain de cause, ou très rarement. C'est-à-dire qu'il y a toute une communication quand même du pouvoir qui... C'est l'information de la peur, quoi. C'est-à-dire que comment on sème aussi la peur chez les gens par rapport en disant, bon, effectivement, c'est mondial, etc., etc., mais il y a quand même des responsables. C'est-à-dire qu'on ne nomme plus, on ne sait plus qui est le patron, quoi. On n'est pas du tout, voilà. Mais y a une stratégie de désinformation et Bon, on a la grippe aussi, hein, c'est pas une grippe plus pire que l'autre. Ça participe à détourner l'attention pendant ce temps-là, il se passe autre chose, quoi. Bon, c'est des vieilles recettes, mais ça marche toujours, c'est ça qui est terrible.
Oui, c'est tout est fait pour convaincre les salariés que ce qui leur est imposé est normal, quoi. Voilà, c'est fatal, on ne peut pas faire autrement, etc. Alors bon, il y a plein d'explications, hein, la désyndicalisation, le fait que sur le plan politique, il n'y a plus d'alternative, le fait que l'alternative mondiale qui a existé pendant longtemps avec tous ses défauts, mais quand même qui tenait un peu en respect les patrons de l'Ouest a fait un fiasco épouvantable. Donc, ils n'ont plus peur, quoi. Ils n'ont plus peur. Hein. Voilà. Et donc, tant que ceux qui remettent en cause, disons, le capitalisme, en particulier ces formes sauvages de capitalisme financier qui sont en train maintenant de dominer le monde, tant qu'il n'y a pas une autre alternative, une autre, comment dire, un autre projet qui tienne la route, alors que l'autre s'est planté complètement, bon, bah, comme certains ont dit, hein, l'histoire est finie. Maintenant, le capitalisme a un boulevard et il n'a plus à se gêner, quoi. Hein, voilà, c'est la course au profit. Puis s'il y en a qui crèvent, on s'en fout, quoi. Voilà, jusqu'à ce que ça explose d'une autre façon, parce que je ne crois pas que les gens puissent supporter. Bon, on voit bien les chiffres d'affamés augmentent dans le monde, les chiffres de pauvres, de proportion de pauvres, ça augmente dans tous les pays développés. Il y a en même temps cette juxtaposition d'augmentation extravagante des richesses et d'aggravation de la pauvreté. Voilà. Alors, est-ce qu'on va s'habituer à ça? Moi, ça m'étonnerait qu'on puisse s'y habituer. Hein.
Moi, je voulais vous poser la question de la représentation de la classe ouvrière. J'ai entendu il n'y a pas longtemps le résultat d'un sondage. On avait demandé aux étudiants français, selon eux, quelle était la part de la classe ouvrière dans la masse salariale. Ils avaient répondu en moyenne 5%. En réalité, c'était entre 20 et 30%, je ne me souviens plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à la télévision, au cinéma, on ne voit pas souvent, même dans les fictions, des ouvriers. Et je voulais savoir, puisque vous avez eu une carrière dans des grands groupes de télévision, est-ce que vous avez senti une évolution de cette représentation et de la place de la représentation des ouvriers? Et aussi, à la sortie du film, est-ce que ça a été facile de le diffuser, de le distribuer? Comment on réagit les gens à la sortie de ce film?
Ce que vous dites, c'est un peu la raison de ce film. C'est-à-dire qu'avec mon producteur Jean Bigot, ça nous a pris en 99, quelque chose comme ça, oui. Et on s'est dit, il y a un vrai problème, quoi. Les ouvriers, ceux qui fabriquent les richesses, hein, pas seuls, avec les ingénieurs, les intellectuels, etc., les scientifiques, etc., mais enfin, ceux qui fabriquent les richesses, pour l'essentiel, ont disparu du paysage. C'est l'histoire. Ils n'ont même plus le droit de porter leur nom, quoi, d'ouvriers. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volonté de... dans l'idéologie dominante, d'essayer de convaincre les gens qu'ils n'existent pratiquement plus, quoi. Ils sont en voie de disparition. Et puis, ce n'est pas grave, on n'a pas besoin d'eux. C'était un peu ça, le discours. Et ça s'est traduit dans tous les domaines. Par exemple, vous parliez du cinéma. Les ouvriers existaient dans le cinéma des années 30, 40, 50. Les Jean Gabin, par exemple, bon, les films de Renoir... de Grémillon, de Carnet, etc. Dans les grands films, les ouvriers étaient des personnages qui avaient droit de cité, quoi. Et peu à peu, ils ont complètement disparu. Et dans les documentaires, de la même façon. Mais c'est vrai aussi dans le domaine de la recherche, de la sociologie, par exemple. Les sociologues... qui s'intéressent à la classe ouvrière, bon, bah, mettons s'il y en avait 1000 dans les années 50 ou 60, il n'y en a plus que 3 aujourd'hui, quoi. Ça avait complètement... Enfin, à l'époque, on a fait le film, il y a 10 ans à peu près. Les ouvriers ne sont plus intéressants, quoi. Voilà. Ça n'a plus aucun intérêt de les montrer, de s'intéresser à eux, de comprendre comment ils vivent, comment ils travaillent, etc. Et les choses ont quand même basculé, si vous voulez, peu à peu. On n'a pas été les seuls à faire des films sur le monde ouvrier. Il y en a eu quand même de plus en plus dans le documentaire et même dans la fiction. Des films comme, je sais pas, le film de Kanté. Comment s'appelle ce film-là sur le... Pardon ?
Ressources humaines,
par exemple. Oui. Il y a eu quand même un certain nombre de films qui se sont intéressés à nouveau au monde ouvrier, et puis des chercheurs il y a des livres, que le retour sur la condition ouvrière, par exemple, de Beau et Pialou. Il y a eu un sursaut quand même. Et je crois que c'est en train de changer, disons.
Mise à l'heure des pendules au niveau mondial, justement, puisque s'il y a une mondialisation des patrons, il y aura forcément peut-être une mondialisation
il faut espérer,
du monde ouvrier.
Il faut espérer.
Mais est-ce que vous sentez que c'est en cours ou là on est vraiment au fond, on est juste devant le rouleau compresseur et
on est un peu au fond quand même.
Oui.
Mais bon, il commence à y avoir par exemple des organisations syndicales internationales.
Ah niveau, oui, c'est ça que voilà.
Au niveau européen, ouais. Il y en a une, et il y en a une depuis 2 ou 3 ans. Il y a une organisation internationale. Mais bon, on entend peu parler encore. Hein.
Oui, c'est voilà. Pour ça que je suis même étonnée de l'apprendre. Je suis contente.
Confédération internationale du travail, un truc comme ça. Ouais. Chose comme ça. Enfin, le mot d'ordre de Marx, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, il n'a jamais été plus d'actualité qu'aujourd'hui, quoi. Hein. Parce que la règle, quand même, c'est des pays, ce qu'on appelle les pays émergents, des salariés qui sont traités comme l'étaient les ouvriers chez nous au 19e siècle.
Ouais, ouais.
Voilà. Les jeunes filles qui travaillent dans les usines de jouets en Chine, par exemple, c'est je ne sais pas combien, mais c'est de l'ordre de 60 heures par semaine, ou sinon plus, hein, des journées de travail de 10 ou 12 heures, et des salaires de genre 300 euros, quoi. Donc, ce qui a été fait en France, en Angleterre, en Allemagne, il y a 100 ans, je pense que ça, obligatoirement, ça va se faire aussi dans ces pays-là, certainement, certainement. Et il faudrait que les salariés des deux côtés, du Nord et du Sud, se concertent, quoi. Ça commence un peu. Il y a eu, par exemple, des grèves de Roumains, de travailleurs roumains qui ont été soutenus par les syndicats français et anglais. Il y a une amorce, disons, de solidarité internationale.
Paradis fiscaux, mais lieu d'esclavage.
Ouais. Mais tout est fait pour que ça ne se fasse pas. Hein.
Bah ouais, c'est sûr.
Évidemment. Il y a du pain sur la planche, quoi.
Et on parle souvent de mondialisation.
Prenez le micro.
Excusez-moi.
Oui, parce qu'on parle souvent de mondialisation de la classe ouvrière. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous expliquer ça.
Ce qui se passe, surtout, c'est la mondialisation de la finance, quoi. Mmh. Et donc, ils vont dans les pays low cost, comme ils disent, c'est-à-dire à bas coût, où les salaires sont plus bas. Voilà, c'est ça le principe de la délocalisation.
Ah ouais.
C'est d'aller faire par des gens qui sont payés 10 fois moins ou 5 fois moins le même travail qui se faisait chez nous.
Ouais, mais peut-être
par des ouvriers qui s'étaient battus pour obtenir des salaires raisonnables.
Ouais.
Donc, comme on ne peut pas revenir, c'est difficile de revenir en arrière sur les acquis sociaux, ben on va ailleurs, dans des pays où il n'y a pas de règles. Pas de
loi. Je comprends.
C'est ça, la mondialisation.
Oui. Bon. Ouais, mais peut-être que le monde ouvrier, ils sont plus ou moins solidaires entre eux, ils essayent d'améliorer leurs conditions.
Ben, il faut espérer qu'ils vont se battre comme ceux d'ici se sont battus il y a 100 ans, quoi. Mmh. Mais c'est pas simple, hein.
Bah non, je m'en doute.
Et oui, c'est des pays où il y a une répression terrible.
Bah oui, c'est sûr.
La Chine a beau s'appeler un pays communiste, il fait pas bon faire grève, hein.
Ouais.
Oui, mais là-bas aussi, maintenant, il y a une espèce de forme d'arrogance de la richesse qui se montre,
ouais.
Qui fait monter,
Bon, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Enfin, le capitalisme est en Chine. Bon, il y a tous les nouveaux riches qui se font construire des palais, etc. Ouais, etc. Bon, c'est, voilà, comme en Russie. Donc, il y a une espèce de monstration d'étalage des richesses. Je ne sais plus, j'avais vu une émission où ça commence à énerver pas mal de monde. Quoi. Donc, c'est intéressant qu'il y ait des réactions parce que justement, il n'y a plus de classe, il n'y a pas de classe moyenne, il y a les pauvres et puis il y a ceux qui sont vraiment s'enrichissent. Quoi.
Alors, peut-être, enfin, je ne connais pas ces pays, enfin, je connais la Russie, mais je ne connais pas la Chine. J'ai l'impression qu'on est encore à une époque où, dans ces pays-là, beaucoup de pauvres se disent, bah, peut-être que je vais avoir de la chance moi aussi et je vais devenir riche. Hein. Et voilà, il y a beaucoup d'illusions comme ça pendant un temps, jusqu'au moment où ils se rendent compte que bon, bah, il y en a peut-être un sur mille qui va devenir riche et les autres vont crever la bouche ouverte. Donc la seule solution, c'est pas celle, la solution, c'est pas de ce côté-là, c'est de résister ensemble et de combattre. Mais ça, ça prend du temps. Hein. Regardez le temps que ça a pris dans les pays comme la France ou l'Angleterre. Voilà, c'est très difficile.
Et puis même, on peut se dire qu'aujourd'hui, le peu de temps que ça prend à tout se casser, parce que enfin, dans le film, là, déjà en 2001, on peut montrer qu'on peut embaucher en France des gens avec des contrats de travail que l'inspection du travail a, dans des conditions 13 heures par jour, 7 jours sur 7. Et puis, aujourd'hui, on voit aussi, en tant que salarié, tout ce qui nous passe, la régression. Il y a une régression des conditions de travail, aujourd'hui. Et, ben, voilà, quoi.
Ben oui,
la santé, l'éducation, le travail.
C'est tout.
Tout va de pair, quoi. Ben
oui, on découvre que rien n'est jamais acquis, quoi. Rien n'est jamais acquis, il faut...
Voilà. Donc, aujourd'hui, on s'est arrêté de se battre ici. Pourquoi ailleurs ça démarrerait ? Enfin, bon, on peut espérer. Mais, voilà.
Alors, on est dans un pays où il y a quand même un certain nombre de lois sociales, de réglementations sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais encore faut-il établir un rapport de force pour imposer leur application. Sinon, bah, les patrons s'en foutent, quoi.
Complètement.
Il y a des patrons qui payent en dessous du SMIC, par exemple, qui est complètement illégal. Mmh. Et si personne les oblige à respecter la loi, bah, voilà, il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail, par exemple. Mmh. Tout est fait pour ne pas faciliter leur boulot. C'est clair. Donc voilà.
Et le code du travail qui a été complètement changé, c'est-à-dire que, sachant que chaque article, c'est un fragment de lutte dans le code du travail, quand effectivement on touche à un article, on touche à un chapelet de droits qui tombe d'un coup. C'est pas simplement l'article 3 qui. C'est des chapelets qui sont autant de résultats que de luttes. Et c'est ça être complètement effacé, quoi.
Je ne sais pas si vous avez lu une interview très intéressante dans Challenge, un journal économique, un hebdo, je crois, économique. Et ils avaient interviewé, il y a un an à peu près, un type qui s'appelle Denis Kessler, qui était le bras droit du baron Sellière, le patron du MEDEF pendant longtemps. Et lui, c'était vraiment son bras droit. Maintenant, il a quitté la direction du MEDEF. Il dirige une grosse assurance, je ne sais plus laquelle, genre AXA ou un truc comme ça. Et alors, les journalistes ont demandé ce qu'il pensait de la politique de Sarkozy. Alors, il a dit, écoutez, c'est très simple. En 45-46, le gouvernement a mis en œuvre le programme du CNR. Conseil national de la résistance. Alors, ça a donné la sécurité sociale, les allocations familiales, le régime des retraites, les nationalisations, etc., etc. Voilà. Pourquoi ça a été possible ? Pourquoi ça s'est fait ? Ça s'est fait parce qu'il y avait une Union soviétique très forte qui avait gagné la guerre mondiale, donc il y avait beaucoup de prestige et beaucoup de poids. Il y avait en France un parti communiste fort, un parti socialiste fort, des syndicats très forts, avec un grand soutien des salariés, un grand soutien populaire. Donc voilà, ils ont pu imposer tout ça. Dans ces circonstances-là, ont permis d'imposer tout ça. Bon, qu'est-ce que c'est la politique de Sarkozy ? Ben, ça consiste à dézinguer tout ça, toutes ces mesures-là, une par une. Voilà. Parce que maintenant, maintenant qu'il n'y a plus de parti communiste, il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus de camp socialiste, les syndicats n'ont plus d'adhérents, le Parti socialiste explose en vol. Bon, ben maintenant, le moment est venu de remettre en cause toutes ces choses épouvantables qu'on nous a imposées il y a 40 ans, quoi. Et ben, c'est ce que Sarkozy est en train de faire. Et il a raison. C'était dit comme ça. Voilà. C'est à ça qu'on assiste.
Je crois qu'on joue beaucoup des rivalités des ouvriers les uns contre les autres. Je me souviens d'un slogan dans les années 68. Alors, c'était « Le racisme est une invention des patrons pour diviser les travailleurs entre eux ». On pourrait dire des patrons et du gouvernement maintenant pour diviser les travailleurs entre eux. Parce que ceux qui ont encore un travail, qui ont peur de le perdre, on leur laisse entendre que ceux qui sont là à être payés moins cher représentent une menace finalement pour eux puisqu'ils pourraient les remplacer pour moins cher. Donc, quelquefois, les gens restent un peu frileux et hésitent à sauter le pas pour effectivement montrer plus de solidarité pour les autres travailleurs qui finalement partagent un peu un sort, pas semblable, mais enfin, ce sont tous des ouvriers finalement qui sont tous condamnés par la logique capitaliste. Mais ça marche très bien, effectivement, les rivalités entre travailleurs.
Enfin. C'est la situation des chantiers de l'Atlantique dans le film.
Oui, avec les bleus clairs et les bleus foncés. Oui.
Voilà. Donc, dans un premier temps, en tout cas, les bleus clairs, ils ont tendance à dire, ces gens-là, ils cassent le boulot, ils cassent le métier, ils acceptent des conditions en dessous des règles, etc. C'est nos ennemis. Et le petit, là, il essaye de les convaincre que non, c'est pas de leur faute, ça leur est imposé, et ce ne sont pas vos ennemis, au contraire, il faut les aider, et quand vous les aidez, vous aidez vous-même. Parce que sinon, c'est vous qui allez vous trouver un jour dans la même situation de précarité, ou vos enfants. Et ça, c'est pas si facile, parce que tout est fait pour encourager l'individualisme. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend depuis les années 80 dans, les lieux communs de l'idéologie dominante ? On entend depuis les années 80 des trucs du genre, il faut être un tueur, par exemple, hein, en sport, dans le travail, etc. Il faut être un tueur. C'est ça, c'est bien d'être un tueur, d'écraser les autres. Voilà, avec des tapis est devenu un maître à penser, quoi. C'est à vomir. Mais on en est là, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que c'est arrivé au moment où la gauche arrive au pouvoir, en gros.
La génération tapis.
Ah oui, la génération tapis. Voilà, où sachez-vous vendre. Hein, voilà. Et il n'y a aucun salut dans l'action collective. Il faut vous débrouiller tout seul. Vous êtes responsable de votre situation. Si ça ne marche pas pour vous, c'est de votre faute. Vous n'avez pas su faire, vous n'avez pas su vous vendre, vous n'avez pas su répondre aux attentes des industriels, etc. C'est terrible tout ça. Hein. Dans un climat de peur du chômage comme celui qu'on connaît aujourd'hui, pendant un temps, ça fonctionne. Et les gens vont se jeter dans les bras d'un Sarkozy, par exemple. Ou d'un Le Pen, pire encore.
Et moi, j'ai une question, c'est sur les types de scénarios qu'on peut envisager, parce que moi, c'est tout le temps la question que je me pose. Je crois que le travail, quand il s'en va, il ne revient pas. Les entreprises qui sont délocalisées, elles ne vont pas revenir, quoi. Ou alors, il faudrait que les coûts de production soient alignés ici sur ceux de la Chine. Mais concrètement, le chômage ne va pas baisser, plutôt l'inverse. Qu'est-ce qu'on va donner à faire aux gens ? Donc, moi, des fois, je me dis qu'un de ces quatre, on va se payer une guerre sur la gueule, quoi. Peut-être dans 10 ans, mais c'est un des trucs qui va se présenter, quoi. Ça donne du boulot, parce qu'il y a toute une industrie autour de ça. Et puis, ou alors, c'est ça, on va être tellement énormément à demander de l'emploi que on va du coup émietter l'emploi, en fait, et que les gens seront prêts à bosser pour une misère. Et donc, voilà, moi, je voulais savoir si vous aviez une opinion là-dessus sur le type de scénario possible.
Je constate comme vous, mais ce que je me dis quand même, c'est que les capitalistes qui organisent l'économie du pays, enfin de nos pays, de cette façon-là, vont quand même se casser les dents sur un certain nombre de contradictions. Parce que c'est bien beau de fabriquer des choses en Chine, mais s'il n'y a plus personne pour les acheter, parce qu'il n'y a plus personne qui travaille, j'exagère, hein, mais si on pousse la logique jusqu'au bout, qui va acheter leurs produits fabriqués à bas prix ailleurs? Même à bas prix, ils ne pourront plus les vendre. Il y a un moment où ça ne va plus fonctionner, ce truc-là. Voilà. Et puis, en même temps, ça donne du travail dans certains pays, mais dans des conditions épouvantables. Donc, ils vont commencer à se fâcher aussi. Mais en même temps, il y a toute une partie du monde qui s'appauvrit terriblement. On en est à plus d'un milliard d'humains qui vivent avec un dollar par jour. Et puis ça ne fait que s'accroître. Je ne sais plus quels les derniers chiffres de gens affamés, ça a encore augmenté. C'est aussi par milliards que ça se compte. Bon, y a un moment où ça ne va plus être possible. Alors ça peut donner le pire et le meilleur. Hein. Ça peut, soit ça peut aboutir à des révoltes organisées, efficaces, intelligentes, etc. Soit ça peut aboutir à des jacqueries, ça peut aboutir à des extrémismes de droite, par exemple, des fascismes, des guerres. Le pire est possible. Et puis, bon... ça ne va pas dans le sens de la préservation de la planète non plus. Enfin, dans tous les domaines, on risque d'aboutir à des contradictions insolubles. Quoi. Donc la seule chose qu'on peut dire, bon, personne n'est prophète, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas laisser faire. Il faut résister d'une manière ou d'une autre, chacun dans son coin. Il faut essayer quand même de mettre en commun tout ça et d'essayer d'inventer un autre monde plus juste. Il ne faut pas baisser les bras, quoi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison qu'on vive dans un monde sauvage où les gens se marchent sur la tête, chacun pour soi, les suicides qui augmentent dans les entreprises. Enfin, tout ça, c'est insupportable, quoi. Alors, comment on fera? Il faut le décider ensemble. Hein. C'est pas...
de Berlin il y a 20 ans et on constate parallèlement qu'on n'a jamais autant construit de murs le long des frontières nord-sud, même en Afrique, entre pays africains, enfin bon, comme une espèce de barrage contre l'invasion possible, justement, on va dire des affamés qui souhaitent remonter, traverser la frontière. Alors ces murs là sont sinon plus haut que ceux de Berlin, est beaucoup plus long encore. En même temps, voilà.
Oui, de même qu'au niveau des pays, c'est pas encore autant le cas en France, mais moi j'ai vécu un peu en Italie, c'est de plus en plus souvent le cas. Mais aux États-Unis, ça se développe, à tout va. On va se trouver avec des gens qui vivent dans des villages fortifiés. Ça commence en France. Ça commence. Il y a des rues de Paris qui sont fermées. Moi, j'étais sidéré quand j'ai découvert ça. Dans le 16e arrondissement, il y a des rues qui sont fermées. Des rues comme la rue d'Ombal, bon, ben, c'est fermé d'un côté et de l'autre. Il y a des grilles et il y a des gros bras qui surveillent et vous n'avez pas le droit de rentrer dans la rue. C'est sidérant quand même, en plein Paris. Oui, oui. Ben, les habitants de ces rues qui sont des milliardaires... ils ont décidé que personne n'a le droit de passer dans cette rue, ils la ferment et on les laisse faire. Mais c'est vrai partout. Moi, j'habite à Vitry, il y a une petite rue où il y a des bâtiments relativement neufs, quoi, qui doivent dater de 20 ou 25 ans. Bah, pareil, ils l'ont fermé des deux côtés. Alors pour aller de l'autre côté, il faut faire un tour. Avant, on traversait. Bah, non, c'est fini, on ne peut plus traverser. Et c'est infernal, quoi. C'est une société qui va...
De renfermement, en fait.
D'enfermement.
D'auto-renfermement.
Voilà. Chacun, alors en plus, ils jouent sur la peur, etc. Là, ils sont en train d'inventer des trucs, alors que les spécialistes disent que la délinquance des jeunes diminue. Bon, ben, ils vont aggraver encore l'arsenal anti-jeunes, etc. Pourquoi ? Parce que ça paye, ça marche encore, la peur marche encore, quoi. C'est les vieilles recettes débiles qui datent de Mathusalem.
Si les ouvriers ont plus peur de se retrouver au chômage que de prendre le risque de défendre leurs droits, de combattre pour conserver leurs droits, ben, c'est justement uniquement là-dessus qu'est basée la victoire actuelle de ce système. C'est sur la peur, quoi. Oui. Et comment la dégommer, cette peur ? C'est ça qui fait peur.
Parce qu'à un moment donné, on a parlé de l'effacement de tout ce qui pouvait rappeler qu'il y a une classe ouvrière. Et toute la communication est faite pour ça, pour qu'on intègre que ça n'existe plus. La chose, c'est que c'est ceux qui sont au-dessus, la classe, je dirais, bon, les employés, etc. Juste après, là, comme vous avez rappelé, et moi, je suis 100% d'accord avec ça. Peut-être que le travail, ce n'est pas un travail de sueur, comme dans les usines. Enfin, l'image qu'on a des ouvriers en train de suer, etc., qui est un peu caricaturale aussi. C'est vrai que technicien de grande surface, ça fait peut-être chic, mais bon, c'est pour toujours des petits boulots. Et il n'y a pas de quoi envier le travail, on a déjà dit tout à l'heure, de ce qu'on appelle employé. Donc, au-dessus de ça même, on voit bien que c'est tout le monde qui est menacé. Il y a une espèce d'effacement en changeant des noms aussi de ce qui vient après ouvrier qui saute. Et tout le monde se sent menacé, quoi. Et voilà, là, on revient à la peur.
Moi, je voulais vous demander dans quel. J'ai vu qu'il y avait Maurice Feilvic au générique. Je me souviens que c'était un cinéaste, on peut dire cinéaste. En tout cas, il a beaucoup œuvré pour la télévision et il a fait beaucoup de films sur les ouvriers, je crois me souvenir. Enfin, ça a été un. Oui. Alors, je voulais savoir dans quelle mesure, justement, je ne sais plus si c'était sous le patronage ou bon, enfin, comment vous aviez travaillé avec lui et en quoi il avait participé au film. Est-ce que c'est son.
Oh, bah, c'est pour une raison très simple, c'est que. Il est à la retraite, comme moi d'ailleurs, officiellement, mais on continue l'un et l'autre à faire des films, et on est très amis depuis longtemps. Et à l'époque où je faisais ces films-là, et j'en faisais deux en même temps, 300 jours de colère et les prolos, et donc c'était un énorme travail, et on en avait parlé, et il m'a dit, tiens, moi en ce moment, j'ai rien à foutre, pendant 2 mois, si tu veux, je te donne un coup de main, je te sers d'assistant. Donc j'ai eu pendant un mois ou deux... comme assistant, Maurice Feilvic, qui est un des plus brillants réalisateurs de la télévision, qui est un réalisateur de fiction.
La Belle Ouvrage.
La Belle Ouvrage, par exemple, oui. Gouverneur de la Rosée. Son dernier film s'appelle Jusqu'au bout. Ce qui racontait l'histoire de Célatex, en gros, quoi. Voilà. Et actuellement, on fait ensemble, en co-réalisation, un autre documentaire.
Mais ça passe à la télévision ?
Oui, oui. Oui, quelqu'un me demandait comment c'était diffusé. Ben, c'est passé, ces films-là sont tous passés à France 2. Hein. Ils sont tous passés à France 2 dans la case documentaire, qui, je ne sais plus comment ça s'appelle actuellement. Ça. Infrarouge, je crois que ça s'appelle.
En fait, c'est la télévision qui finance tout ça.
Oui, oui. Oui, on propose un projet, et s'il l'accepte, il le finance, puis après, il y a d'autres financements. CNC, les conseils régionaux participent aussi. Voilà. Mais
vos documentaires passent à 8h30 ou à 11h30?
Non, il ne faut quand même pas trop en demander. Je suis très content de pouvoir les faire en toute liberté parce que dans le service public, c'est encore possible de faire ce genre de choses, même s'il ne s'en fait pas beaucoup. Mais dans le privé, il ne s'en fait pas du tout. Mais ça passe à 10h du soir, 10h30, 11h, ça dépend, quoi. C'est sûr, à des heures peu chrétiennes. Ce qui fait que les premiers intéressés, souvent, ne les voient pas. Parce que s'ils bossent le lendemain tôt, c'est pas jouable, quoi. Alors on bagarre pour que ça passe à des horaires plus normaux, mais bon.
Comment se fait-il que soit en total... perte de vitesse pour ce qui est de la diffusion de documentaires intéressants. Je vois plus que des choses sur l'archéologie, ce qui est très intéressant, mais enfin bon, et ou des films animaliers.
Ah, vous exagérez, ça c'est plutôt la 5, ça.
Non, c'est Arte. Arte. Ah, sur Arte, je vois beaucoup de films animaliers
c'est
maintenant.
C'est en train de se dégrader un peu, on dirait.
Bah, j'ai l'impression que beaucoup même. Ouais.
Enfin, on voit encore des choses intéressantes sur Arte.
Oui, 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 mais enfin, quand même, beaucoup moins, qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Comment ça se fait? Enfin, ils tiennent plus le coup non plus.
Je sais pas trop. Enfin, on peut pas dire que ce soit la chasse à l'audimat, puisqu'ils vivent très peu de la pub.
Oui, voilà, c'est pour ça que je m'étonne justement, parce que.
Mais bon, regardez chez nous, soi-disant, on a supprimé la pub. Avant 20h pour qu'il n'y ait plus cette course à l'audimat, etc. Or, ça peut changer les choses. Parce que les gens qui dirigent les chaînes, leur idée, c'est de se dire... Et puis, ils font des sondages pour ça. Ils font des comment on appelle ça, du marketing, quoi. Hein, ils font des panels de téléspectateurs, etc. Et quand même, leur tendance, c'est de nous dire, voilà, c'est ça que mon public veut. C'est ça que le public veut. Il faut faire ça. Parce que sinon, non, ça ne les intéresse pas. Ils savent, ils prétendent savoir ce que veut le public. Or, c'est la pire des imbécilités, quoi. C'est comme si un écrivain, si un éditeur disait à un écrivain, bon, ben, voilà, le public veut ça. Alors, tu vas écrire ça. Alors, si c'était comme ça que ça fonctionnait, Baudelaire n'aurait jamais écrit Les Fleurs du Mal. Hein, parce que, bon...
Oui, mais en fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne quand même, hein, maintenant.
Ben, ça fonctionne de plus en plus comme ça, y compris, je soupçonne que ça commence à fonctionner comme ça aussi en littérature, certainement.
Tout à fait, oui.
Donc, ça, je trouve ça absolument catastrophique, quoi. Le public, il faut lui proposer des choses nouvelles, sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon, ça tourne en rond, quoi. Hein. C'est du formatage. Et ça, bon, ben, nos managers, entre guillemets, sont formatés dans cet esprit-là, quoi. Et puis, d'ailleurs, ils tournent, ils passent du privé au public. Donc, ils finissent par penser tous de la même façon, quoi.
Pour en revenir, on vit quand même un superbe paradoxe. C'est que ceux-là même qui pourrissent la planète... Parce que bon, parce que c'est le système capitaliste qui veut ça, c'est qu'on roulera avec du pétrole jusqu'à la dernière goutte des investissements qu'ils ont mis dans leur puits de pétrole, sachant que bon, on a des énergies alternatives à ça. C'est les mêmes qui pourrissent la planète, qui refusent tout changement pour limiter, etc., les gaz à effet de serre et tout ça. Et c'est les mêmes qui produisent les films. Qui soutiennent des films comme Home, par exemple, qu'on voit, et au début du film, on voit tous les génériques, tous les logos, où il y a Elf, tout ça, ils sont tous là. Donc, en même temps, ça s'accompagne par un sentiment de culpabilisation, en dehors de la peur, des individus, comme chacun étant responsable du dégradation de la planète, du réchauffement de la planète, en tant qu'individu. Alors que ce ne sont pas les masses laborieuses en soi qui décident des politiques de production, qu'est-ce qu'il faut produire, etc. Donc, il y a une superbe supercherie qui se résume aussi dans le terme très très à la mode actuellement, développement durable. Durable pour qui? Voilà. Donc, on vit un temps fou, quoi. Ouais. Les films animaliers, c'est vrai que moi aussi, quand j'en ai un peu ras-le-bol de leur discours, avec mon fils, on aime bien regarder les films animaliers. Et en même temps, j'ai l'impression un peu qu'on est en train de me faire jouer un film que j'ai vu il y a plus de 20 ans qui s'appelle Soleil Vert, où le type, avant de mourir, il a le droit de regarder les images de cette nature. Vous avez tous vu ce film. Il est allongé, et puis sur la musique de Quatre Saisons, Vivaldi, il voit la planète telle qu'elle était avant, avec les moutons, les oiseaux, les animaux, et on ne voit pas d'humains. Et j'ai l'impression qu'on est en train de nous la faire grandeur nature.
Oui, parce que il y a deux choses qui s'aggravent en même temps, quoi. C'est la planète sur le plan écologique, mais c'est aussi l'humanité qui est en train de se déshumaniser, quoi, d'être déshumanisée. Et donc il faut se battre sur les deux tableaux en même temps.
Bon, on est encore là. Hein ? On verra peut-être quelque chose. C'est quand la prochaine manif ?
Si on n'est pas plus nombreux que ce soir. Hein.
Non, mais c'est pas grave. Moi, je crois dans ce qui se fait aussi dans le petit. Hein. On peut être très nombreux, dire que des conneries. Donc, moi, je crois qu'il faut travailler de proche en proche, même si. On va pas faire dans la quantité, on va faire dans la qualité. Bon, il faut que ce genre de soirée, même si on est 5, 6, se multiplie un maximum, et puis on en parle autour de nous. Parce que là, on vient de se dire des choses. Ces petits rendez-vous, même si on n'est pas nombreux, l'autre soir, on était 99. Et ce soir, on est moins nombreux. Mais ça permet de refaire des signes de reconnaissance dans la pensée. Et que. C'est bien que les gens commencent à parler pour dire qu'ils ne sont pas dupes de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire qu'on nous fait prendre les vessies pour les lanternes. J'ai ce fameux paradoxe qu'on est en train de vivre. Il faut que ça s'intériorise, quoi, tout ça. Dans le temps, on appelait ça des prises de conscience. Bon, je sais pas quoi. Et on n'a même plus le droit de dire ça parce que ça n'existe plus. C'est des mots vilains. Il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de partis. Mais à force de dire les choses comme ça, ça fait partie d'une communication de destruction. Il faut qu'on récupère des mots, on en invente d'autres. Il faut continuer à être créatif.
Ouais, tout le monde n'a pas baissé les bras, il ne faut pas exagérer.
Non, je ne dis pas ça. Mais bon.
Oui, vous avez raison.
Mais quand il y a 100 000 personnes dans la rue, première chose que l'on dit, vous n'étiez pas assez nombreux. On l'a eu, ça. On y a eu droit il y a 2 ans de ça. C'était. Ça ne se voit pas. Donc vous n'existez pas. C'est comme pour les ouvriers. Ça ne se voit pas, donc ça n'existe pas. On est dans politique de rendre des choses invisibles. Et c'est à nous de rendre de la visibilité, même si on... Voilà.
Il faut parler fort.
Non mais voilà, je ne voudrais pas qu'on finisse sur une note triste. Donc, ah bon, voilà quoi. En tous les cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous allez passer prochainement c'est programmé. Au Méliès, ouais.
C'est quand
le
26 ou 28, un mercredi.
Il doit y avoir les programmes dehors.
Je vais vous dire ça. Oui, je vais prendre. Le 24.
Le 24.
Au Méliès. À 20h30.
Et bien, l'aventure continue. En tous les cas, merci à vous d'être venus avec nous ce soir, même si on n'était pas très nombreux. Merci.